Canon.
Sur tous nos modèles Citroën, chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Ça ira. Des journées comme ça, on attendait que ça.
Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin dans le réseau d'agents participants.
Pensez à covoiturer.
Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Europe 1 Soir. Deux heures d'infos, de décryptage, de débats avec Caroline Yadan et David Rigoulet-Rose. 19h sur Europe 1.
Europe 1 Soir.
19h, 21h. Pierre de Villeneuve.
Au sommaire, l'image du jour, c'est cette présentatrice de la télé iranienne quittant précipitamment son plateau de télévision en direct après une frappe de l'armée israélienne. La guerre continue, Israël continue de frapper Téhéran aussi, 11 morts en territoire hébreu la nuit dernière. Donald Trump enjoint l'Iran de négocier immédiatement avant, dit-il, qu'il ne soit trop tard. Nous partons en Israël dès le début de ce journal. Nous verrons qu'à Téhéran, les habitants fuient le pays. Quelle suite? Va-t-on vers une guerre totale? Israël va-t-il parvenir à mettre à terre le régime des Mollahs? 20h10, le chercheur et spécialiste David Rigoulet-Rose pour en savoir davantage sur la situation, ses conséquences et ce qui peut se passer dans les prochaines heures. Pendant ce temps, pataquès au salon du Bourget, des stands d'équipementiers militaires israéliens mis sous bâche. La raison, François Bayrou la donne, des armes offensives et non défensives exhibées dans un contexte de conflit. Nous verrons comment la classe politique réagit et à 19h15, nous entendrons la colère de la députée Renaissance des Français de l'étranger, Caroline Yadan, qui vient dans ce studio. Dans ce journal également, la fuite en avant surprise de Luca De Meo. Le DG de Renault quitte l'industrie automobile pour le géant Kering et part au sauvetage de la maison Gucci. Et puis le bac philo, impression des élèves après les épreuves d'aujourd'hui. La météo, la tendance. Bonsoir Marlène Durel.
Bonsoir Pierre. Des conditions toujours calmes demain, ensoleillées, anticycloniques, généralement chaudes, voire très chaudes. Et ce temps estival va durer toute la semaine.
À tout à l'heure, 20h55, l'or d'Autriche et les enfants d'Europe 1 nous attendent avec Rudolf Nureyev. Et juste avant, nous accueillerons Julien Pichenet qui nous parlera des podcasts d'Europe 1 dans le cadre de cette grande semaine de la grande famille d'Europe 1. Et direction Israël qui redoute de nouveaux tirs meurtriers de missiles dans les heures qui viennent, alors que l'Iran fait savoir aux États-Unis qu'elle veut revenir à la table des négociations. Bonsoir Frédéric Simon.
Bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Quelle est la situation ce soir ?
Eh bien, tout d'abord, cette information relayée par les médias américains et qui a été confirmée par Donald Trump lui-même, l'Iran cherche en effet à négocier une sortie de crise et il est dans son intérêt de le faire avant qu'il ne soit trop tard, selon les termes du président américain. Il n'y a pas encore de réaction officielle en Israël, mais pour l'heure, la confrontation entre les deux pays est toujours aussi intense. Il y a un quart d'heure environ, les sirènes annonçant l'approche de missiles ont retenti dans le nord d'Israël, notamment dans la région de Haïfa. C'est dans cette ville que 3 employés d'une raffinerie ont été tués la nuit dernière, lorsqu'un missile s'est abattu directement sur leur lieu de travail, ce qui indique le degré de précision des projectiles iraniens, ainsi que la volonté de l'Iran de s'en prendre aux ressources énergétiques en Israël. Cette même salve de missiles avait provoqué la mort de 4 autres personnes dans des immeubles d'habitation du centre du pays. On dénombre pas moins de 300 blessés. Parallèlement, l'aviation israélienne accentue sa pression sur les objectifs liés au régime des Mollahs en Iran. Les studios de la télévision d'État à Téhéran ont été pris pour cible et selon Tzahal, un tiers des rampes de lancement des missiles balistiques auraient été détruits par les avions de chasse. En outre, Benjamin Netanyahou hausse le ton dans un entretien accordé à la télévision américaine ABC. Le premier ministre israélien a affirmé qu'il n'excluait pas d'attenter à la vie du guide suprême du régime des Mollahs, l'ayatollah Khamenei.
Merci Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. L'Iran n'est pas en train de gagner cette guerre, affirme Donald Trump, tout en enjoignant le régime des Mollahs à négocier avant qu'il ne soit trop tard. C'est bien sûr sur ce thème principal que le G7 s'est ouvert hier au Canada. Keir Starmer appelle à une désescalade après que Londres ait envoyé un renfort militaire au Moyen-Orient. Les bombardements israéliens ont fait au moins 224 morts en Iran et plus d'un millier de blessés. Frédéric Simon vient d'en faire état. L'image du jour, c'est sans doute cette présentation de la télé iranienne qui quitte précipitamment son plateau après une frappe de Tzahal. Une image qui donne le ton de l'insécurité actuellement dans le pays. Bonsoir Alexis de la Fécher.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Alors face à cette menace de nouvelles frappes, la population tente de fuir en masse.
Oui, sur les rares images qui nous parviennent via les réseaux sociaux, on voit ces colonnes de voitures, pare-chocs contre pare-chocs qui s'étirent sur les routes de Téhéran. Des milliers de personnes fuient la capitale, des scènes inédites. Et pour cette iranienne expatriée en France, que j'ai pu contacter contacté il y a quelques instants. Chaque appel, chaque message reçu de sa famille, mais aussi d'amis restés dans la capitale iranienne, est une source d'angoisse. La situation est extrêmement tendue sur place.
En fait, là, j'ai encore accroché avec quelqu'un il y a 5 minutes. Et ben, le bruit des bombes fait peur. Tout ce chaos qui règne aujourd'hui dans les villes font peur parce qu'il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Les supermarchés ont été dévalisés. Ils ne peuvent pas quitter les grandes villes parce qu'il n'y a plus d'essence. Ou quand ils veulent quitter, le trajet d'une heure et demie se fait en 18 heures. Quand ils veulent atteindre quelque part. En fait, tout est saturé.
Voilà, des scènes de panique, de peur, parties pour durer. De nouvelles frappes israéliennes sont prévues. Israël frappera le dictateur iranien partout où il se trouve. Déclaration aujourd'hui du ministre israélien de la Défense.
Merci de ces précisions, Alexis de la Fléchère. Pour Europe 1 et en marge de cette guerre, Iran-Israël, que penser de l'attitude des autorités françaises au Salon du Bourget? Le Bourget, c'est chaque année le salon des nouveautés militaires. Tous les pays producteurs présentent leur matériel dernier écrit, cette année plus encore, avec des équipements à base d'intelligence artificielle. Et voilà que des stands de représentants israéliens ont été...
Petrucciani, Training, un extrait de l'album Trio in Tokyo qui vient de sortir pour la première fois en vinyle. À Tokyo, justement, on y reste puisque c'est ici qu'est né le guitariste japonais Ryo Kawasaki qui avait la particularité d'être à la fois guitariste mais aussi ingénieur. On lui doit la création du tout premier synthétiseur guitare ainsi que divers logiciels de musique. Le voici ici en duo avec une pianiste, Joanne Brakin.
En 1978, en effet, il a enregistré avec cette pianiste qui vit toujours, qui a 86 ans aujourd'hui, qui est née en Californie et qui est passée, qui a enseigné au Berklee College of Music. Et le morceau qu'on écoute se traduit en français par « Bibelots et objets », « Trinkets and Things ». Thank you.
Now it's clean-up time for you and me.
And the front room's in an awful state.
Why did everybody stay so late?
I don't know. Glasses.
And ashes.
And bottles.
And cans.
Are all that's left of our party.
And the party was a huge success. Oh, yes. Just count the glasses and ashes and bottles and cans. Yes, the party was a big success.
Will we ever clean up this mess?
I guess. Just count the glasses and ashes and bottles and cans. A party, martini or Bacardi. I like scotch on the rocks.
I know.
A party, dress up like a smarty.
In a sequin strapless and a mink dyed
box. Well, get yourself a couple of rhinestones.
I'll be the belle of the ball.
Glasses and ashes and bottles and cans are all that's left of our party. And I thought I'd be in bed by three.
By three?
Oh, me.
Oh, me.
Just count the glasses and ashes and bottles and cans.
I'm so glad we heard the last farewell.
Guess we'd better disconnect the bell. Oh, well.
Just count the glasses.
Then ashes.
Bottles.
Cans.
Half a dozen drinks upset.
And the chair and rug are still quite wet.
Cigarette burns on the tabletop.
Broken cocktail glasses someone dropped.
Oh, well, this mad pursuit of pleasure.
Glasses and ashes and bottles and cans are all that's left of our party. And the party was a huge success. Just count the glasses and ashes and bottles and cans. Yes, the party was a big success. Will we ever clean up this mess? I guess. Just count the glasses and ashes and bottles and cans. A party.
Être supprimé, annonce aujourd'hui de cette agence qui table sur une réduction mondiale de ses coûts de prêt d'un tiers dans les prochains mois. Une ancienne secrétaire d'État du gouvernement de Jean Castex, Nathalie Elimas, condamnée aujourd'hui par la justice, reconnue coupable de harcèlement moral auprès de ses collaborateurs. L'ancienne députée du Modem est condamnée à 10 mois de prison avec sursis. Et puis un deuxième cas de chikungunya détecté en France métropolitaine, un cas autochtone, c'est-à-dire que la personne n'avait pas voyagé dans une zone tropicale ces derniers mois. Il s'agit d'un habitant de l'Hérault qui vit près de Montpellier. Son état de santé n'inspire pas d'inquiétude particulière.
France Info.
Il n'était pas forcément très connu du grand public, mais voilà 5 ans qu'il était à la tête de Renault. Luca De Meo quitte aujourd'hui on a annoncé en tout cas son départ de la direction générale du groupe automobile. Dans un message ce matin, Luca De Meo assure que ce fut, je cite, le plus grand privilège de sa vie professionnelle. On va d'abord, avant d'en parler, on va d'abord prendre la direction du technocentre de Guyancourt. C'est là où travaillent notamment les ingénieurs de Renault, des salariés dépités, comme a pu le constater pour France Info Marie Maheuf.
Il a appris la nouvelle ce matin, juste avant de prendre son poste. Annonce brutale, confie Florian, designer pour le groupe.
Personne n'était au courant. Il n'y avait pas eu de bruit de couloir ni quoi que ce soit, c'est un peu tombé comme un coup près.
C'était même branle-bas de combat dans les couloirs, confie l'un de ses collègues hors micro, avec une réunion de la direction générale. Arrivé mallette à la main, Régis, un technicien, n'a pas encore eu écho de son équipe, mais se dit très déçu.
Je trouvais que c'était quelqu'un de un patron très très bien. Il nous a un petit peu sauvé la vie quand même, il faut le dire. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé qu'il reste encore un peu plus longtemps pour nous mettre sur la bonne voie, que ça continue, que ça soit pérenne. Là, on n'en est pas tellement sûr sur la longueur. Donc, oui, un peu triste quand même.
Et même si tous ne louent pas la ligne de Luca De Meo chez Renault, Sébastien, analyste pour le groupe, est déjà presque nostalgique de son ancien patron dans un contexte délicat pour le secteur automobile.
Il avait stabilisé et il y avait une marche en avant qui était quand même visible. Hein. Les chiffres, on voit que dans les groupes français, on n'était pas les plus à plaindre. Quoi. Donc... On espère que son successeur sera aussi bon que lui.
Et c'est la question sur toutes les lèvres, salariés comme syndicats. Le capitaine quitte le navire alors que Renault entame une phase décisive de sa transformation, dénonce la CGT. Et Guillaume Ribière, délégué syndical CFE-CGC, fait part aussi de son étonnement.
Ce départ arrive l'année du futur plan qui était annoncé normalement dans quelques mois, qui s'appelait le plan Futurama. Ce nouveau plan devait emmener le groupe à un niveau plus élevé, notamment dans tout ce qui était innovation et électrique. Aujourd'hui, la direction a évoqué qu'elle souhaitait maintenir les travaux menés avec le plan Futurama, ce qui est plutôt rassurant. Maintenant, on ne sait pas avec la personne qui sera nommée directeur général si elle souhaitera maintenir tout ou partie ou créer un nouveau plan. On verra ça malheureusement dans les semaines à venir.
Pas d'annonce pour le moment sur le successeur possible à Luca De Meo, qui lui reprend bien les rênes de Kering, officialisé ce soir par le géant du luxe.
Voilà, ça a donc été officialisé ce soir. Merci Marie-Maëlle pour ce reportage. Officialisé par Kering et pour le groupe de luxe, c'est malgré tout une réorganisation chez ce numéro 2 français du groupe. Kering, un groupe à la peine, Sophie Ovigne. Sophie, c'est un groupe Kering dont le chiffre d'affaires a baissé de 12% l'an dernier.
Depuis deux ans, les résultats s'obstinent à baisser chez Kering. Le groupe a perdu près de 60% de ses bénéfices l'an dernier et ça ne va pas mieux depuis le début de l'année. Dès le premier trimestre, le chiffre d'affaires a dégringolé de 14%, littéralement plombé par les ventes en chute libre chez Gucci, censée être la locomotive du groupe puisqu'elle représente plus de 45% du chiffre d'affaires de Kering. Mais voilà, les plus gros clients de la griffe, les Chinois, ne sont plus au rendez-vous et le climat d'incertitude aux États-Unis ne favorise pas les achats de grands luxe. Pas mieux pour les autres marques de la maison. Les ventes reculent chez Saint-Laurent, moins 8%, moins 11% au total chez Balenciaga et Alexander McQueen.
Le groupe n'est sans doute pas resté les bras croisés. Sophie, qu'est-ce qui a été tenté pour remonter la pente ?
Chez Gucci d'abord, les créateurs se sont succédés en vain. Les espoirs reposent désormais sur le nouveau directeur artistique, Demna Gvasalia, mais sa première collection Gucci ne défilera pas avant l'automne. Alors en attendant des jours meilleurs, le groupe a tenté de faire des économies, au moins 5%, de réduire sa dette. Il vend des actifs immobiliers, il cède des points de vente, mais ça ne règle pas le problème de fond. Il va falloir plaire à nouveau et donc faire repartir les ventes.
D'où cette réorganisation. Qu'est-ce que le poste d'un directeur général peut apporter ?
Une réorganisation profonde de la direction, c'est vraiment ce que réclament les investisseurs. Mais ils sont minoritaires, donc le message passe moins bien. Mais cette fois, l'actionnaire majoritaire semble avoir entendu la demande, c'est-à-dire François-Henri Pinault, fils du fondateur et actuel PDG. Et il a peut-être un peu lâché le gouvernail en habitant à Londres depuis 10 ans. Alors aujourd'hui, à 63 ans, il pourrait scinder en deux le pouvoir, comme demandé, garder la présidence, mais faire une place à un grand patron tel Luca De Meo, un génie du marketing, exactement ce qu'il faut pour le monde du luxe, collectionneur de montres, soucieux de son image jusqu'aux pointes de ses pochettes, ça ne gâche rien. En tous les cas, la bourse a apprécié l'idée. Dès l'ouverture ce matin, l'action Kering a regagné 7%.
Merci beaucoup Sophie Ovigne, spécialiste éco de France Info. Ces patrons du CAC 40, ces grands patrons, vous les connaissez bien, vous les étudiez depuis à peu près 20 ans. Bonsoir Vincent Lavessière.
Bonsoir.
Vous êtes président du cabinet V.V. Luca De Meo, donc ancien patron de Renault, qui devient directeur du groupe Kering. C'est quand même inédit un tel mercato.
Pas tout à fait.
Ah, oh, quand
oui,
même. C'est pas fréquent.
Il y a un précédent. C'est pas fréquent, mais il y a un précédent. En 2022, c'est Alain Wertheimer, du groupe Chanel, qui est allé chercher Lina Nair, qui a fait, pendant 30 ans, carrière chez Unilever. C'est pas tout à fait le même univers.
Ça reste,
vous en conviendrez.
Voilà, de la grande distribution, etc.
Mais c'est
pas de l'industrie.
Vrai.
Là, c'est quand même très étonnant de passer de l'industrie à la mode.
Alors, en fait, il y a une industrie du luxe. Mais c'est vrai que c'est contre-intuitif. Je vais pas vous dire le contraire. Hier, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est un poisson d'avril. maintenant, quand on y réfléchit un petit peu, après mûre réflexion, on se dit pourquoi pas. D'abord parce que ce dont le groupe Kering a le plus besoin, c'est d'un redresseur. Donc, Monsieur Luca De Meo, c'est un redresseur hors pair.
C'est ce qu'il a fait à Renault.
Et chez Seat. et chez Seat.
Mais c'est quelqu'un qui a grandi dans l'automobile, enfin, je me permets ce terme.
Il a grandi dans l'automobile. Attention, le groupe Kering a aussi besoin d'un patron de fer. Et ça tombe bien, parce que Luca de Meo, c'est un patron de fer dans une enveloppe italienne. Il a aussi besoin, peut-être, de quelqu'un d'italien, parce que le navire amiral du groupe Kering, c'est Gucci. La marque qui va bien chez Kering, c'est Bottega Veneta. Ce sont deux marques italiennes. Donc, ça n'est pas complètement aberrant. C'est un pari osé, mais c'est un pari qui peut être gagnant. En tout cas, la bourse le salue, puisqu'ils ont pris 12% dans la journée.
Vincent de la Vessière, quand on est un grand patron, ça veut dire qu'on peut être grand patron partout. Qu'on est forcément un génie des affaires.
Je ne dirais pas ça. Là, j'ai envie de dire, le groupe Kering n'a pas le choix. Ils sont au bord du gouffre. Ils ont perdu plus de 60% de leur valorisation boursière. Ils sont à 20 milliards. Là où Hermès et LVMH sont à plus de 200 milliards.
Juste pour donner un élément de contexte à nos auditeurs, pendant très longtemps, on parlait des deux grands groupes français, évidemment LVMH et puis ce qui s'appelait à l'époque Pinot.
PPR,
voilà, Pinot Printemps. Ouais. Et aujourd'hui, les deux, enfin, il y a eu un décrochage.
Il y a eu un décrochage très important qui fait qu'ils ne boxent plus dans la même catégorie. En tout cas, sûrement pas dans la même catégorie boursière. Donc, il faut s'attaquer au navire amiral qui s'appelle Gucci. Il faut recréer l'envie de Gucci, qui a quand même connu trois directeurs artistiques en l'espace de 3 ans. Ça fait beaucoup. Il faut repositionner Gucci, parce que là, ils sont trop en entrée de gamme. Il faut aller vers l'hyperluxe, comme Hermès, comme LVMH.
Oui, mais regardez, par exemple, un patron d'automobile, il connaît pas très bien, il connaît très bien, évidemment, les designers du monde de l'automobile, de l'industrie, il connaît les fournisseurs, il connaît tout ça. Est-ce qu'il va connaître les bons designers de la mode? Est-ce qu'il va connaître, est-ce qu'il a les codes?
Il a pas les codes.
Ça, c'est terrible.
C'est évident qu'il a pas les codes. Mais maintenant, il peut s'adapter très vite. Si j'avais un conseil à donner...
Je pense qu'il écoute, allez-y.
Si j'avais un conseil à donner, il faut réconcilier les géographies du groupe Kering. Le groupe Kering est le seul à avoir deux géographies, la France et l'Italie. Ce serait un formidable symbole de voir Luca de Meo s'installer le 15 juillet à Milan.
C'est un Italien, on rappelle, il est francophone, il a 58 ans. Mais il y a d'autres noms qui circulaient. On a appris dans la presse que Alexandre Bompard, l'actuel PDG de Carrefour, aurait...
Je l'ai vu dans la rue, ce genre de fille qui me tue. Son regard, un de ceux qui me fout en l'air. Elle a ce truc, ce je ne sais quoi qui me brûle. Hors de question de jouer l'adolescent.
Je l'ai vu dans la rue, fixé comme si j'étais perdu. Il a ce truc, ce je ne sais quoi qui me pute. Je sais que te plaît, que ton corps s'est retourné. Que je te fais l'effet.
Je suis très touché, mais tu ne me toucheras pas.
Je te paye un verre,
le verre de trop,
pour faire comme si
tout était beau.
Je suis une jolie proie, mais tu ne m'attraperas pas.
Je te fais croire,
croire au vide de nos cœurs qui ne battront pas. L'amour c'est pour les fous,
qui se consument jusqu'au bout.
L'amour c'est pas pour nous,
nous on vit comme nous.
L'amour c'est pour les fins,
qui courent jusqu'à la fin.
Qui danse avec tes flammes,
sans penser à demain.
L'amour c'est pour les fous. Quoi qui me pique, je sais que tu me veux, qu'entre nous c'est électrique.
J'ai cru dans la nuit que tu pourrais me sauver, mais mon cœur, désolé, c'est déjà fait des vœux. Il y a ces autres qui m'ont fait beaucoup de mal. Il y a tes doigts qui me caressent, qui me calment. Je suis très touché, mais tu ne me toucheras pas.
Je te paye un verre,
le verre de trop,
pour faire comme si
tout était beau.
Je suis une jolie proie, mais tu m'attraperas. L'amour c'est pour les fous,
qui se consume jusqu'au bout.
L'amour c'est pas pour nous,
nous on vit comme nous.
L'amour c'est pour les fins,
qui courent jusqu'à la fin.
Qui danse avec tes flammes,
sans penser à demain.
L'amour c'est pour les fous, qui se consume jusqu'au bout. L'amour c'est pas pour nous, nous on vit comme nous. L'amour c'est pour les fins, qui courent jusqu'à la fin. Qui danse avec tes flammes, sans penser à demain.
règle générale. Les amants finissent mal en règle générale. Les amants finissent mal en règle générale. En règle générale, en règle générale. Les amants finissent mal 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 en règle générale.
L'amour c'est pour les fous qui se comptent jusqu'au bout. L'amour c'est pas pour nous, nous on vit comme des loups. L'amour c'est pour les sangs qui courent jusqu'à la sang. Qui dansent avec des flancs sans penser à demain.
Les amants finissent mal en règle générale. Les amants finissent mal.
Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees, just while they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
Cause I'm having a good time.
Don't stop me
yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Quel tube, hein, celui de Queen en 1978. L'album Jazz est en extrait Don't Stop Me Now. Parlons maintenant de Charlie Winston. Il va partir en tournée des festivals au mois de juin, le 26 précisément. Rendez-vous également à Paris du côté de l'Olympia, mais pas tout de suite, hein, puisque c'est prévu pour le 11 mars 2026. Et puis, un nouvel album est également en préparation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Album où on retrouvera ce single. Écoutez Never Enough sur RTL 2, le petit dernier de Charlie Winston. Oui, c'est comme ça qu'on dit.
Try to own you. Don't let them take your armor off. Oh,
public de l'Apollo à Harlem, à New York. C'est un public hyper exigeant qui encourage les artistes, mais qui parfois font des bouh et tout. Est-ce que vous aviez peur de jouer à l'Apollo? Comment vous vous sentiez?
Oh, I was terrified.
J'étais terrifiée.
I was terrified. No, I was. Because of that.
À cause de ça, parce que je connais l'histoire de l'Apollo.
Before I did my performance, I walked into the theater,
spectacle. And there's j'ai été dans le théâtre et il y avait un arbre de choses historiques.
They said to me, et ils ont dit, to rub that tree,
si tu oublies de frotter cet arbre, ils vont vous huer.
They will boo you out.
Ils vont même de faire le spectacle.
Of course,
alors bien sûr, j'étais terrifiée. J'ai monté l'escalier, j'ai frotté l'arbre.
I got it, happiness.
C'est bon.
And then I had to perform.
But voilà, j'ai dû faire le show. Mais avant, j'étais plus terrifiée
the music director
parce que
came
le
up
directeur de musique
me,
est venu me voir. Il m'a dit,
if you miss this note,
si vous ratez cette note,
you're out. You're out. And so I was like,
out.
Okay, well,
dégagez.
Can you have some faith in me?
Est-ce que vous pouvez avoir
please,
un petit
just,
peu de...
I'm a singer.
Confiance en moi. Je suis une chanteuse avec de l'expérience.
So we practiced the song and he was like, okay, that's great. I also just want you to know that the musicians that's performing with you also performed with Whitney Houston.
Qui sont avec vous ont aussi été avec Whitney Houston.
Oh, thank you. More pressure.
Ah, super.
Beautiful.
Merci. Plus de pression.
So now I really have to
magnifique.
Be terrified,
maintenant, je peux vraiment avoir peur. Mais c'était super.
C'était super, on l'a entendu. Allez, I Will Always Love You, vous connaissez aussi la version de Whitney. On l'écoute, on se régale, c'est Décibel.
If I should stay, I would only be in your way. Go, but I know I'll think of you every step of the way.
notes tout en puissance, les notes tout en haut et puis les notes toutes douces à la fin dont nous parlait Belinda Davis. Ben voilà, vous les avez entendues chanter par Whitney Houston. I Will Always Love You, ça fait évidemment partie du programme du concert de Belinda Davis. Mais d'ailleurs, à quoi s'attendre? Ça ressemble à quoi? Vous allez vous en rendre compte maintenant.
J'avais la chair de poule du début à la fin.
Incredible.
Un véritable show.
Le souffle coupé.
Ressemble à ça, les concerts de Belinda Davis. Elle est en tournée en ce moment, après-demain, à Bressuire, au Bocapol, puis le 20 juin, c'est-à-dire vendredi, à Lille. Dimanche, rendez-vous à Tours, au Palais des Congrès. La semaine prochaine, le 26 juin, à l'Auditorium d'Aix-les-Bains. Et Belinda revient nous voir à l'automne, à Angers, Pornic, Bourges, Le Havre, Paris, la salle Pléiel, le 8 novembre, Longnes, le 9, Limoges, Rodez, Narbonne, Montpellier, Gap et Lyon, le 18 novembre. Belinda, en fait, avec ce spectacle, avec les chansons de Whitney, vous êtes en voyage quasiment toute l'année.
Pretty much 10 months out of the year
we've been traveling. 10 mois dans l'année everywhere. Nous voyageons partout.
I've been to places where I didn't even
j'étais dans des endroits où je ne savais même pas qu'il y avait des personnes qui savaient qui était Whitney Houston. Mais c'est toujours sympa d'être présenté à des foules différentes, des régions différentes, des endroits différents, nouveaux.
She was a world wonder.
C'était une merveille globale.
One world wonder.
Yeah. Une merveille globale.
C'est ça, une merveille du monde, Whitney Houston. Est-ce que certains pays préfèrent certaines périodes, certains aspects de Whitney? Est-ce que vous devez adapter votre concert à certains pays?
I think that we do.
Aujourd'hui, et ils sont votre sang. Qui est très très endetté
du travail qui
recrutement formé.
J'ai répondu, tu veux pas
encore une fois
donc on peut le
les festivals
c'est prêt au projet
simplement que c'était
c'est vraiment ça ça
le vieillissement
plus à la bordure en
taxes, tout ça.
Fondation nationale.
Française.
Sonne la plus forte.
Closure.
Ils vont pas s'arrêter.
C'est bien ça.
Whitney, préparez-vous seulement.
Aux cotisants pensionnés.
La voix devient.
L'université vont tout.
Les abricots français.
Il y a un album qui vient de sortir.
René Bertella et Jacqueline.
Voilà, collège.
Vous arrivez à Marseille.
Lycée.
Et nous.
C'est de réduire.
Entrée libre.
CAE a publié son rapport.
Et là.
À la neutralité carbone en 2050.
Betty, le patron, on l'a cité, mais il y en a.
Tout à fait terminé, vous allez peut-être retrouver vos collègues.
ODT, donc cet injonction.
XL avant la sortie du dernier.
Plus son pays, puisqu'il l'a quitté.
Notre avenir, économisons.
Rendez-vous sur le site Don de Sand.
Les embargos qui.
toutes deux multipliées par 100.
Je parle aussi rapidement que Eminem et Whitney.
Votre nouveau déodorant est déjà en
Your Baby Tonight.
Et la chanson la plus amusante à faire pour moi. Vraiment. Parce qu'elle me fait travailler mon souffle un peu, mais aussi c'est tellement amusant.
La société de l'entreprise était dégagée des entreprises à 59 ans. Et pourquoi c'était 59 ans il y a encore quelques mois? Parce qu'à cette époque-là, maintenant c'est un petit peu baissé, mais les seniors avaient droit à 3 ans de retraite. Et le hasard faisait bien les choses. 59 plus 3, c'était 62 ans. Donc les entreprises ont utilisé le chômage comme pré-retraite.
Sauf que c'est plus autorisé désormais.
Alors, maintenant c'est un peu moins. Voilà, c'est moins un peu moins. C'est plus que 2 ans. Mais c'est toujours possible, à part que c'est plus 3 ans, c'est 2 ans et demi, grosso modo. Mais c'est d'ailleurs pour ça que les partenaires sociaux et que l'organisation syndicale que je préside, la CFTC, travaille beaucoup sur la retraite progressive. Parce qu'on préfère travailler sur la retraite progressive plutôt que se servir du chômage comme pseudo-retraite progressive.
Allez, on est en train de parler de retraite à 64 ans. Est-elle inéluctable ou pas? Avec Franck Morel, qui est expert associé à l'Institut Montaigne et ancien conseiller social à Matignon, et au ministère du Travail, avec Cyril Chabanier, qui est président de la CFTC. Et aussi avec vous, Denis Gravouille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT en charge de l'emploi, des retraites et du chômage. Les négociations, vous les avez quittées. On s'en souvient, c'était en mars, le 19 mars, justement d'ailleurs sur les 62 ans. Cette fameuse phrase de François Bayrou à l'époque, un retour à 62 ans est inenvisageable, compte tenu, avait-il dit, de la situation internationale, si je ne m'abuse à ce moment-là. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, monsieur Gravouille, on a bien fait de partir, là où on en est aujourd'hui du conclave ou pas?
Ben, ce que je constate, c'est que l'intersyndicale dont on a tous fait partie, y compris Cyril, on le sait bien, a continué de dire que la réforme elle-même était une source de pénibilité et une source d'inégalité femmes-hommes, et c'est toujours le cas. La véritable cause, quand on manipule un Marty Picker, déjà on nous dit que on vire les gens à 60 ans, mais à 62 ans, ils sont encore plus dégagés. Donc même si on réintroduisait le critère de vibration, bon, les questions d'égalité femmes-hommes, c'est pareil, on peut toujours mettre des modifications cosmétiques, mais en attendant, le recul de l'âge lui-même augmente les inégalités. De même que la capitalisation que Monsieur Morel vend pour Edouard Philippe, il n'y a pas de système de solidarité dans la capi. C'est un système où c'est chacun pour soi. Or la réalité, c'est que les jeunes actuellement mettent énormément de temps à avoir un CDI. L'âge du premier CDI, c'est 28 ans. Donc on tape des études plus ou moins longues, des stages, des périodes de chômage pas indemnisées, des petits contrats et total.
Plus les 43 ans.
Plus 43 annuités. L'âge légal, il est difficile.
J'espère qu'on vous a pas perdu. Vous êtes là, monsieur Gravouille?
Non, je suis là.
Oui, pardon. Oui, il y a eu un petit moment de... Alors, je veux pas qu'on refasse le match ensemble. Dites-moi cependant, quel est le levier sur lequel vous dites-vous qu'on aurait dû appuyer et au fond, on ne l'a pas fait pour pouvoir justement rester à flot sans pour autant être obligé de rester arc-bouté sur les 64 ans? Est-ce que c'est la hausse des cotisations? Est-ce que c'est l'indexation?
On manque d'imagination. Déjà, on nous présente comme le rapport du corps, comme quoi il y a 3 possibilités seulement et un recul de l'âge. C'est faux.
Ils en ont 5 et ils vous demandent d'en choisir 3 pour être honnête avec le corps.
Nous, on a proposé d'autres qui n'ont même pas été regardées. Et il y en a par exemple une qui est l'égalité femmes-hommes. Si on avait déjà assuré, si possible en quelques années, par exemple tout de suite, immédiatement, on aurait tout de suite entre 6 et peut-être 14 milliards, selon les chercheuses, de cotisations pendant 40 ans. Donc, ce serait une mesure de justice et on aurait les éléments. On peut mettre à contribution des éléments financiers. Et ça, avec ça, on a les moyens de financer à la fois l'abrogation de la réforme 2023, sur lequel nous, on n'a pas bougé, et les 2/3 des Français aussi, je le rappelle, les 2/3 des Français veulent l'abrogation. C'est bien pour ça que Sophie Binet a posé la question à Emmanuel Macron, qui a refusé un référendum et on a un problème démocratique. Le Parlement vote, l'Assemblée nationale a voté un vœu pour l'abrogation de la réforme. Les Français sont pour, mais ça ne passe pas parce qu'une minorité s'arroge des instruments de pouvoir pour empêcher qu'une majorité puisse avoir raison sur le dossier de la retraite. Mais finançons les retraites. Oui, il y a beaucoup de moyens de financement. Et évidemment qu'il faut améliorer la pénibilité. Évidemment qu'il faut améliorer l'égalité femmes-hommes. Mais à condition qu'on ait commencé par revenir sur le recul de l'âge qui est la cause de la pénibilité et la cause des inégalités.
Monsieur Gravouille, vous le disiez, effectivement. Après, il y a ce qui sort du conclave et puis il y a ce qui se passe derrière et qui est du domaine même du Parlement et qui est de la pure politique. Est-ce que au fond, ce que vous attendez, parce que c'est bien ce qui plane aussi, c'est une censure du gouvernement à l'issue du conclave, en tout cas un vote dans ce sens-là, si toutefois on en reste là. Est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'il faut en gros remettre la politique, remettre le champ politique à l'intérieur de cette réforme, parce que le champ de la négociation, pour vous, est fermé?
De toute façon, les deux doivent s'articuler. Mais pour l'instant, on discute. Il y a une négociation. Sinon, on l'a quitté. Je sais qu'on ne sera pas d'accord avec Cyril, mais sinon, on l'a quitté, c'est qu'on ne discute que de miettes. Pour le reste, effectivement, il y a une articulation entre la négociation et le politique, mais rien n'a fonctionné en matière démocratique dans ce domaine-là. Un 49-3 et des obstructions à toutes les tentatives d'abroger la réforme, alors qu'on sait qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait un débat au Parlement et il faut qu'il revienne rapidement sur le fond de la réforme et pas sur des mesures qui seront des mesures peut-être légèrement sucrées. Mais des mesures sucrées quand on a eu le recul de l'âge, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a la moitié des gens qui sont ni en emploi ni au chômage. On leur a raboté les droits à l'assurance chômage parce qu'il fallait punir les employeurs, mais c'est les salariés qu'on a punis. Et on a des centaines de milliers de personnes, on l'a vu, les chiffres du chômage au 1er janvier 2025, c'est plus de 50% le nombre de chômeurs de 62 ans. Donc c'est avec au moment où on a une augmentation du plan de licenciement et où les salaires qu'on a largement dénoncés, et où les salaires sont stagnent. Donc répartissons les richesses autrement. Si on augmente les salaires, par exemple, on peut augmenter les cotisations, y compris salariales, parce qu'on y gardera en augmentant les salaires, on y mettra une part. Mais ça, il faut moins de dividendes pour ça.
Denis Ravoux, je vous remercie beaucoup de votre passage dans le téléphone. Je sais que vous vouliez intervenir, Monsieur Chabanier. Attendez un peu. Je voudrais quand même qu'on retourne au standard. Écoutez, Frédéric, notamment. Bonsoir, Frédéric.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi je suis architecte d'IA, je conçois une IA qui s'appelle Zoran et qui est une IA éthique qui a pour but d'équilibrer le vivant.
J'allais dire vous êtes le mal, mais en fait non, vous êtes le bien. Allez-y, on vous écoute.
moi non, mais mon IA oui en l'occurrence. La question est la suivante. Dans l'équation, il y a en fait un énorme problème. Nos enfants ne veulent plus travailler. Moi j'en ai quatre. Ils ont plus du tout envie d'avoir des carrières comme nous on a pu avoir envie d'en faire. Enfin, c'est la première question. La première plus affirmation d'ailleurs. Les IA sont clairement en train de changer notre monde. Il y a des gens comme Bill Gates qui l'affirment. Et très honnêtement, notre IA éthique le valide à 200%. Le col blanc va disparaître. Les médecins vont disparaître, les comptables, les avocats, tous les gobelins, tous ceux qui pensent vont disparaître. Va disparaître. Au minima des entreprises. Et on nous demande de travailler plus longtemps. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que aujourd'hui, personne n'arrive à résoudre cette équation et même de l'aborder. En fait, c'est ça qui me gêne. C'est qu'en fait, l'équation n'est jamais résolue à 100%. On vient toujours l'effleurer, on vient toujours nous dire et nous raconter finalement que non, il n'y a pas de problème, ils n'iront pas nous remplacer. Mais en fait, enfin, j'ai juste la sensation, en fait, qu'on nous prend pour des cons, excusez-moi l'expression. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas ça sur le tapis réellement une bonne fois pour toutes.
Merci beaucoup pour votre question, ça va faire plaisir aux jeunes qui n'ont pas envie de travailler, j'ai entendu votre affirmation, mais la question sur l'IA par exemple, Franck Morel, moi je la trouve pertinente, c'est juste que dans le sens où on est en train de faire des calculs aujourd'hui et des projections sur au fond un monde du travail qu'on ne sait pas anticiper. Sait-on vraiment anticiper le monde du travail à la vitesse où va l'IA, par exemple, dans 5 ans, alors que le corps, quand il nous fait des prévisions, nous emmène jusqu'en 2070. Mais qu'est-ce qu'on sait du monde du travail à ce moment-là ?
Il faut garder beaucoup d'humilité et beaucoup de recul par rapport à ça. Moi, je me méfie des formules affirmatives toutes faites sur l'intelligence artificielle. Que nous disent ceux qui ont un petit peu travaillé sur le sujet, un peu réfléchi sur le sujet ? Ils nous disent que l'IA va être indéniablement un facteur de gain de productivité. On estime à peu près à entre 5 et 10% en fonction des études le gain de productivité issu de l'IA. Ça, c'est plutôt bon, dans un premier temps, effectivement, pour le financement de notre modèle social. Deuxièmement, on nous dit qu'un certain nombre d'emplois vont être non pas supprimés, il y en a quelques-uns qui vont être supprimés, mais un tiers à peu près des emplois, selon l'étude, vont être impactés. Mmh. Impactés, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'ils vont cesser d'exister, mais ils vont changer dans leur contenu. Ouais. On citait tout à l'heure un certain nombre de professions intellectuelles.
Bill Gates, il est plutôt du côté de notre auditeur. Oui. Il est disparu, ces emplois-là.
Écoutez, on verra bien, mais moi j'entends beaucoup effectivement d'études qui sont plutôt, je dirais, plus mesurées sur la question, effectivement, sur la transformation des emplois, et notamment des emplois intellectuels. Ce qui est assez perturbant par rapport aux précédentes révolutions technologiques, c'est que c'est une révolution technologique qui concerne plutôt les cols blancs. Ça, on n'avait pas l'habitude, effectivement. Et donc, il faut s'adapter à ça. Mmh. Il faut s'adapter, mais vous savez, l'IA, le travail en général et le rapport au travail, on parlait des jeunes, effectivement, c'est quelque chose d'assez ancien, c'est quelque chose de central sur lequel il faut travailler, effectivement.
Vous disiez tout à l'heure, Cyril Chabanier, que, effectivement, on change en gros tous les 2 ans, tous les 4 ans, enfin, tous les 4 ou tous les 5 ans. Vous expliquiez la raison pour laquelle on le faisait en changeant l'âge légal. À ce moment-là, on sait qu'il y a une entrée à l'intérieur dans les caisses de l'État. Mais je me demandais demander si sur ces raisons-là, pour ces raisons-là en fait, l'évolution incroyable du monde du travail aujourd'hui, donc au fond un taux d'activité qui est extrêmement fluctuant, est-ce qu'on n'a pas intérêt, oui, à remettre sur la table cette question-là plus régulièrement finalement, tous les 4 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, j'en sais rien, mais précisément parce que tout est en train de changer aujourd'hui. Est-ce que ça aussi c'est dans l'équation ou pas du tout ?
Oui, mais d'ailleurs je pense qu'on ferait mieux de mettre sur la table une véritable réflexion sur le modèle social qu'on veut demain et donc sur une réforme qu'on appelle systémique de notre modèle social et transformer en profondeur et non pas de changer un paramètre, un coût, la durée de cotisation où on met en fait un pansement mais on réfléchit pas le modèle de manière globale. Et puis la deuxième chose, juste pour intervenir sur ce qu'avait dit monsieur Gravouille, oui, il y a d'autres solutions de financement et moi je partage. S'il y avait l'égalité professionnelle en France parfaite, on aurait 8 milliards de plus dans les caisses. S'il y avait un emploi des seniors comme nos concurrents européens, on aurait 6 milliards. Mais j'entends en même temps mes collègues et j'entends ma collègue Sophie Binet de dire que malheureusement, à ce rythme-là, en continuant comme ça, on va mettre 150 ans pour avoir une égalité homme-femme. Voilà. Donc si on met... alors évidemment, il faut tout faire, nous, pour l'accélérer et aller plus vite, mais ça ne peut pas être une source de financement à très court terme et on est obligé d'aller chercher un peu autre chose. L'augmentation des salaires, c'est quand même aussi l'augmentation des cotisations derrière, et ça reste une priorité pour nous.
Il nous reste tellement peu de temps, monsieur Morel, mais moi j'aimerais quand même que vous nous disiez ce que vous pensez de la proposition de François Bayrou qui dit... On en fait sans fond le tour du jet, vivement cet été, jouant en licorne.
Génération Hip Hop Soul Radio.
J'suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre l'an. C'est top secret, c'est sous contrat. J'suis confiant si ça pète, c'est sûr que personne racontera. Hey, up dans les nanani, nani, nana. Faut j'pense à moi avant de penser à nous. Y'a que allongé que j'donne de l'amour. Et sans la monnaie, j'ai même plus d'humour. Tout comme toi, et j'ai plus l'un jour. Du mal, j'te ferai. Ça me déplaît. T'es mon secret dans mon gameplay. J'ai des jouets, j'ai mon boulet trouvé. Dans la gueule, rien pour tous les goûts. J'irai dehors parce que faut des sous. Non, j'pourrais pas être présent tous les jours. J'ai mal. Je sers que j'me resserre. Barça ou Rotter. Que des gros terres. Bloqué dans sa tête, c'est moi contre l'an, un contre un. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. J'suis confiant si ça.